Partie 4. La maison de Stolios. Eustolios, Kouryéas, avait visité son pays natal et ayant vu la misère de ses concitoyens, il décida d'agir de la même façon que Phébus, Apollon, en offrant des bains à sa ville dans un lieu abrité du vent. Comment sait-on cela? Bien sûr, grâce aux inscriptions retrouvées sur le sol en mosaïque couvrant la plus grosse partie de la maison. Y figure notamment le nom du propriétaire, Eustolios, ainsi que son identité chrétienne. Il semblerait qu'au début, la maison ait été construite pour être une villa privée, mais avec la construction d'un sol en mosaïque et des bains, elle est devenue un lieu public pour le divertissement, une sorte de club. Après la visite du théâtre, en allant un peu plus haut du côté sud-est, en un lieu dominant le flanc de la colline, nous tombons sur les vestiges d'un monument important de la ville ancienne, la maison de Stolios. Il s'agit d'une maison qui date de la fin du 4e siècle, début du 5e siècle, composée de plus de 35 chambres, construite autour de deux cours intérieures et d'un complexe de bains d'une petite taille. Cette construction, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, aurait été réalisée après la destruction du théâtre. Particulièrement intéressantes sont les mosaïques au sol qui datent de l'époque chrétienne, du 5e siècle avant Jésus-Christ, quand le christianisme était déjà bien affirmé en ville et qui couvre la plus grande partie de la maison. Avancez vers l'entrée de la maison qui se trouve du côté ouest, à gauche, étaient autrefois les appartements des domestiques et juste après, un vestibule de l'entrée. De cet endroit, le maître de la maison recevait et souhaitait la bienvenue aux visiteurs, comme l'indique une inscription sur le sol en mosaïque. Sois le bienvenu dans cette maison. Le vestibule relie la cour avec l'atrium central qui comprenait un jardin, un petit bassin et une fontaine. Tout autour, vous pouvez voir des galeries et le péristyle qui était aussi couvert de mosaïques au sol. Autour du péristyle, c'est-à-dire dans les espaces réservés à la réception et aux pièces communes, nous pouvons admirer les plus belles des mosaïques au sol. Nous allons suivre ce couloir, récemment construit par le département des Antiquités à Chypre, pour aller jusqu'à l'endroit qui se trouve au point le plus au sud-est de cet espace. Nous nous trouvons alors dans la pièce la plus importante de la maison, grâce à ces mosaïques au sol qui sont le symbole du christianisme, la nouvelle religion de l'époque. D'ailleurs, nous pouvons lire ceci en grec ancien, à travers l'inscription édictée par le maître de maison qui nous dit que « Cette construction ici ne repose pas sur des grosses pierres, ni sur du fer solide, ni sur du bronze, ni même sur des diamants. C'est un édifice qui repose tout simplement sur les symboles bénis du Christ. Les différentes formes en couleur au sol représentent des symboles chrétiens des premières années de christianisme, comme le poisson, la perdrix ou le paon. Dans la partie sud, nous pouvons lire une partie d'une inscription qui dit « C'est une maison de la pudeur, de la sagesse et du respect ». Dans ce même complexe de salles, et en allant un peu plus au nord pour arriver jusqu'au bain, nous nous trouvons face à une inscription où il est écrit que l'édifice est un lieu public chrétien et qui donne également le nom de son propriétaire. Après avoir visité son pays natal, Eustolios Kouryéus a vu toute cette misère dans laquelle vivaient ses compatriotes et a décidé de faire cadeau des bains et de construire aussi ce refuge de Kourion qui se trouve à l'abri des vents. Apollon, Phébus, protecteur de la ville de Kourion, avait agi également de la sorte auparavant. Les thermes romains. Nous nous dirigeons maintenant un peu plus vers le nord en empruntant les marches qui mènent au point le plus haut de la maison. Vous pouvez continuer en prenant ainsi le couloir le plus au nord. Placez-vous face à la mer. Vous avez ainsi, à vos pieds, devant vous, le sol en mosaïque d'une grande salle qui faisait partie du grand complexe des bains. Les thermes publics montrent l'évolution de la civilisation et sont apparus en Grèce pendant la période classique. Ils répondaient à un besoin, suite au développement de la vie urbaine et la nouvelle organisation des villes. La société de l'époque était à la recherche d'édifices pour la gymnastique du corps et de l'esprit. Les anciens Grecs disaient « un esprit sain dans un corps sain ». En dehors du fait qu'ils contribuaient à un bon équilibre physique et mental, les thermes étaient également un lieu de rencontre et de socialisation, un lieu de communication et de divertissement. L'évolution architecturale de ces bains commence alors en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ et se poursuit jusqu'au 1er siècle, puis cède petit à petit la place aux bains romains. Mais comment fonctionnaient les thermes? Les thermes romains les plus simples étaient composés d'une salle d'eau froide, d'une salle d'eau tiède et finalement d'une salle d'eau chaude. Il fallait d'abord passer par les vestiaires, l'apoditerium, puis prendre un bain froid dans le frigidarium. Les visiteurs se changeaient là avant de prendre un bain froid. c'était la chambre la mieux décorée, qui servait également de salle de réception, car c'est là que se rencontraient les visiteurs après le bain. Le sol en mosaïque de la pièce est composé d'un encadrement de 4 scènes. Deux de ces scènes comportent des motifs géométriques. Une autre représente une perdrix, et la quatrième au nord montre la seule représentation physique d'un personnage dans tout ce complexe. Le portrait d'une jeune femme apparaît à l'intérieur d'un médaillon tressé. Elle semble porter entre les mains un étalon mètre. En effet, la longueur de ce mètre correspond presque à l'unité de mesure d'un pied de la période romaine tardive. D'après l'inscription en grec ancien, il s'agit du mot « ktisis », qui signifie « la création ». Il s'agit alors d'une personnification de la création du monde. Du côté nord et du côté est de cette pièce centrale, il y avait des piscines d'eau froide, et devant chaque piscine, un récipient pour le bain des pieds. Le bain froid est quelque chose qui est apparu suite au conseil de médecins qui le recommandait pour être en forme. La salle d'eau tiède, tepidarium, se trouvait à l'ouest des thermes froids. Le visiteur passait un peu de temps ici afin que son corps puisse s'adapter progressivement à des températures basses, en passant ainsi du vestiaire et du bain froid à la salle suivante avec un bain chaud et vice-versa. Le bain chaud, caldarium, se trouvait du côté sud du bain tiède et était ainsi la destination finale du visiteur qui pouvait prendre son bain grâce aux vapeurs chaudes de la pièce. De ces salles d'eau chaude et tiède, il ne reste plus aujourd'hui que les hypocaustes. Comme son nom l'indique, il s'agit d'espaces dans le sous-sol des salles de bain où émanaient des gaz chauds produits par un foyer appelé le préfournium. Le sous-sol était surélevé sur des petits piliers en briques, des pilettes, afin qu'elles puissent résister à des températures élevées. Les murs, chauffés à l'aide de canalisations de terre cuite ou bien de plaques en terre fixées contre les murs, tout en laissant un espace entre elles pour faire circuler l'air. Nous pouvons ainsi voir des vestibules de chaleur ou bien des foyers d'où passait l'air chaud des hypocaustes vers le haut à travers des canalisations spéciales ou le vide entre les murs et la couche de plaques en terre. Pour faire fonctionner les thermes, il fallait une grosse quantité d'eau qui provenait des puits ou des piscines. Mais la solution la plus appropriée fut la construction de grands aqueducs. Ainsi, l'eau était stockée dans une piscine surélevée et était diffusée à l'aide des canalisations dans les différentes salles des thermes. Le système d'évacuation était également un système assez évolué pour l'époque. Il utilisait des canalisations en terre par lesquelles passaient les eaux des thermes. L'eau déversée sur le sol allait vers les cuves des toilettes qui se trouvaient près des thermes. Les thermes étaient en effet des centres de cure d'une grande importance et jouaient un rôle important pour le bon fonctionnement de la société de l'époque. C'était également un lieu de rencontre, d'échange d'opinions et un lieu où on en apprenait les dernières nouvelles de la journée que les hommes politiques utilisaient pour parler aux citoyens et pour faire de la propagande politique. L'empereur romain contribua à la construction et au fonctionnement de ces thermes, tout comme les nobles, qui revendiquaient une place dans la politique et essayaient par tous les moyens de se faire connaître. L'homme a des rapports mystérieux avec l'eau, que nous pourrions également appeler des rapports métaphysiques, dus au pouvoir de catharsis de cet élément, c'est-à-dire de purification. D'où l'origine du baptistère chrétien qui remonte au terme romain, le frigidarium. Ne pensez-vous pas alors que les spas de nos jours, sanitas per aqua, qui signifie la santé à travers l'eau, soit l'évolution moderne qui reprend cette philosophie de l'époque quant au bienfait des eaux?